Pierre Rose, salut.
Bonjour Nico.
Tu es membre de l'ACAD, collectif anti-compteurs communicants Artois-Douaisis, association en même. Peut-être d'abord, avant de parler de différents sujets, comment toi personnellement tu en es arrivé à réfléchir au sujet des enjeux du numérique, à faire de la technocritique, on peut appeler ça comme ça. Est-ce que c'est déjà, ça faisait partie déjà de la tradition politique des mouvements auxquels tu as pu participer, ou est-ce que c'est arrivé avec Linky?
Oui, en fait, je suis arrivé à partir d'une certaine connaissance politique qui m'a fait découvrir pas mal de domaines. Et effectivement, après, parce que j'ai été aussi dans le social, tout ce qui était problème de logement et tout le bazar. Donc, mais après, disons que j'ai carrément viré ma cutie avec, d'une part, le compteur Linky. Mais maintenant, on s'attaque à plus fort, c'est-à-dire qu'on s'attaque au problème de la 5G, avec des implantations multiples qui posent des tas de difficultés pour certaines personnes qui sont électro-hypersensibles. On s'est attaqué ensuite à la numérisation de la société, c'est un vaste enjeu dont on va parler. Et puis, actuellement, bien sûr, on voit poindre l'intelligence artificielle avec tous les dangers que ça peut poser éventuellement, on pourra en parler aussi. Et puis, ce qui nous préoccupe le plus en ce moment et ce qui fait qu'on va dans un certain nombre d'écoles ou dans certaines communes, pour parler de la surexposition des écrans, pas seulement chez les jeunes d'ailleurs, hein, chez les jeunes comme chez les vieux. Voilà, c'est à peu près le cheminement.
Alors justement, la consommation des écrans, c'est un peu la porte d'entrée de notre questionnement dans cette journée sans ordi. Mais on t'a demandé aussi d'élargir un petit peu, voilà, le discours pour parler de tout un tas d'enjeux du numérique. Alors gros défi, hein, parce que ça peut partir dans beaucoup de directions différentes. On peut d'abord parler ensemble, si tu veux bien, de ce qu'on peut appeler du techno solutionnisme, donc cette attitude qu'ont les promoteurs du numérique de présenter le numérique comme une solution éthique, durable aux différents problèmes de la planète. Alors comment toi tu vois ça?
Oui, en fait, c'est vrai que les promoteurs sont dans des termes tout ce qui est plus classique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la novlangue. C'est-à-dire qu'ils pensent à un numérique durable, éthique, avec l'optimisation des centres de données, avec le développement des logiciels éco-conçus, le reconditionnement, le recyclage, la transparence des algorithmes. Alors là, j'y crois pas un seul instant. C'est trop compliqué, c'est même les spécialistes ne s'y retrouvent pas. En fait, ils sont toujours dans la même optique, c'est-à-dire ils nous font croire qu'avec des nouveaux termes, ils vont arriver à faire passer un certain nombre de problèmes, de gros problèmes actuellement, alors qu'ils ne font que les amplifier. Alors, effectivement, on est un peu dans la problématique de ce qu'on appelle, nous, l'électro-numérique, c'est-à-dire que c'est. Normalement, le numérique est censé résoudre des problèmes, alors qu'en fait, il pollue énormément. Ne serait-ce que pour extraire un certain nombre de métaux et de terres rares, il faut utiliser pas mal d'électricité d'une part, pas mal d'eau, et en fait, en même temps, on pollue les eaux par ces systèmes, puisque obligatoirement, il y a des dégagements de l'eau à la fin du cycle. On voit très bien ce qui se passe en ce moment, c'est carrément dans la conjoncture, parce que quand on voit Trump qui s'occupe de l'Ukraine et puis du Groenland, son objectif par derrière, c'est de s'occuper des métaux rares, c'est-à-dire que l'Ukraine est effectivement dans son sous-sol, pas mal de métaux rares, évidemment, ne parlons pas du Groenland. Alors, quand on voit un peu ce que ça donne dans un pays comme le Congo, c'est dramatique, c'est-à-dire qu'on a vraiment, une exploitation des enfants, une exploitation des femmes avec des viols évidemment. Et puis, bah, évidemment, comme on ne veut pas en rester là, on va polluer, on va essayer de trouver des métaux rares dans les océans, ce qui veut dire qu'on va encore les polluer. Et donc, on en est là.
par rapport aux solutions numériques. On a longtemps pensé que finalement le numérique, l'ère numérique allait remplacer l'ère de la dépendance au pétrole. Toi, ce que tu dis, appuyé sur aussi des lectures que tu as pu faire, c'est de dire que finalement ça se superpose aux autres formes d'exploitation et puis de consommation.
Absolument, c'était très bien décrit dans un bouquin de Jean-Baptiste Fressoz qui s'appelle Transition, et ça montre bien que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, on pensait que le charbon allait remplacer le bois, puis le pétrole allait remplacer le charbon, puis la numérisation allait remplacer tout. En réalité, à chaque fois, c'est une accumulation, c'est-à-dire que on a besoin de tous ces ingrédients pour pouvoir arriver à cette solution enfin, qui pour moi est un drame, c'est-à-dire que on va vers une catastrophe. Et donc, je dirais presque qu'on nous ment depuis le début, c'est-à-dire on nous fait croire qu'on est de plus en plus écologique, alors que ce n'est pas le cas. On est de plus en plus dans la fausse écologie. Et malheureusement, c'est pas assez décrit c'est pas assez mis en avant par ceux qui se prénomment les écologistes, parce que ils sont dans le système.
On a parlé de techno-solutionnisme. Il y a un autre nouveau mot qui existe, qui est le techno-totalitarisme. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, Pierre?
Alors, techno-totalitarisme, ça correspond exactement à ce qu'on disait assez rapidement, c'est-à-dire que, en fait, à partir de toutes les données qui sont récupérées par l'intermédiaire des caméras de surveillance, par l'intermédiaire des compteurs, par l'intermédiaire également des sites, parce qu'on récupère aussi pas mal de choses au niveau de tous les sites, puisque Google a accès à tout ce qu'on peut mettre sur n'importe quel système. Et donc ça veut dire qu'à partir de là, il y a possibilité d'arriver à un système tel qu'il existe actuellement en Chine, c'est-à-dire que c'est un système de contrôle social. Je ne dirais pas parfait, pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas, mais disons assez complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne traverse pas sur un passage clouté une rue, eh bien, on est tout de suite repéré, et puis on perd des points. Alors, ces points, ça sert à quoi? Ben, ça sert éventuellement, si on est des très bons citoyens, on va avoir droit à son image sur les écrans qui se multiplient dans tous les endroits. Et si par contre on est réticent et puis qu'on fait un certain nombre d'erreurs, entre guillemets, d'erreurs, eh bien à ce moment-là, on n'aura plus accès à certains crédits, par exemple. On n'aura plus accès à certains voyages. On n'aura plus. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un système qui nous surveille continuellement. On arrive à, je dirais que, comment il s'appelle, Orson Welles, était loin de se rendre compte de ce qui allait se passer dans l'avenir, dans son dernier bouquin, qui est une référence, 1984. On en est là. C'est-à-dire que on va vers une société et on le constate. C'est-à-dire que quand on pense que certains partis qui sont d'extrême droite pensent qu'ils vont résoudre les solutions par l'intermédiaire du numérique, pense qu'ils vont résoudre le changement climatique grâce au numérique. Je pense qu'ils se fourvoient dans une voie qui est complètement, complètement absurde, hein, parce que ça ne sera pas le cas. C'est au contraire, le système de techno-solutionnisme, techno-totalitarisme va dans une optique d'augmentation des difficultés, d'augmentation des problèmes d'une part, puis d'augmentation des difficultés vis-à-vis des personnes.
Alors, face à tous ces problèmes, toutes ces problématiques, un citoyen peut facilement se sentir un peu démuni, parce qu'on parle de lutter contre des grosses choses, des grandes entreprises, tout un système d'une nouvelle ère du capitalisme. Comment faire d'abord peut-être parler et politiser ces questions, réfléchir à la dénumérisation aussi de la société?
tout à fait. Il faut aller à l'encontre de ce que racontait un ancien secrétaire d'État au numérique qui s'appelle Mounir Majoudi, qui dit « J'ai développé d'abord, réfléchir ensuite ». C'est, nous, on va tout à fait à l'envers, c'est-à-dire d'abord réfléchir, ensuite développer. C'est vrai qu'il faut faire un tri, c'est-à-dire faut dénumériser, limiter le plus possible les usages dans des pans entiers de la société. C'est-à-dire que il y a des domaines qui sont intéressants, hein. C'est-à-dire que, par exemple, en médecine, disons, sans aller jusqu'au bout, hein, parce que pour l'instant, quand on voit ce qui se passe sur Lens avec le nouvel hôpital qui va se mettre en route normalement en 2027, cet hôpital est entièrement numérisé. Ça veut dire qu'il y aura moins de personnel. Ça veut dire qu'on fera confiance, comme d'habitude, aux machines. Et donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Bon, c'est intéressant. Il y a tout de même des diagnostics qui permettent effectivement d'avancer dans ce domaine de la médecine. Ça peut être aussi dans le domaine de la météo, dans certains domaines, domaines scientifiques. Alors, il faudrait peut-être revenir en arrière dans un certain nombre de domaines, parce que quand on voit ce qui se passe dans le domaine de l'agriculture, on en est actuellement, on n'en est plus à des machines sophistiquées et tout ça qui sont conduites par les hommes. On en est à des machines qui sont conduites directement par des hommes qui sont dans leur cabine, dans leur chambre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chauffeurs. Et évidemment, quand ces machines-là tombent en panne, on doit faire appel à un spécialiste. Alors le problème, c'est que on en est à trouver d'autres solutions. Les solutions ont été inventées par une organisation qui s'appelle l'atelier paysan. Il crée des machines très simples. Il fait voir comment il a créé ces machines. Et ensuite, il le donne ou il le vend à différents agriculteurs. Et à partir de là, ces agriculteurs peuvent le mettre en pratique de façon personnalisée. Et comme ça, ça permet justement d'abord aux agriculteurs, que j'appelle des paysans à ce moment-là, ça permet aux paysans de reprendre la main en direction de tout ce qu'ils peuvent faire. Parce que tout est fait actuellement pour que le paysan soit de plus en plus dépossédé de ses pratiques. Alors, il y a aussi, évidemment, on peut penser que on va aller en s'améliorant avec toutes ces inventions. En réalité, ce qui va se passer, c'est que ça va être tellement complexe qu'à chaque fois qu'il y aura une difficulté, eh bien, on ne saura pas le réparer obligatoirement. On l'a vu, par exemple, en Espagne, quand on pense à cette coupure d'électricité qui a duré un certain temps. Alors, on cherche les causes. Les causes, c'est évidemment la centralisation de tout ce système. C'est-à-dire qu'il y a besoin, pour la numérisation, il y a besoin de centraliser. C'est une des bases de départ. Alors, le fait qu'on centralise, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un petit problème, automatiquement, ça se répercute sur un vaste territoire. Alors que si on essaye de raisonner à partir de ce que font... ce commence à faire certains pays, c'est-à-dire parler de ce qu'on appelle les biorégions. Ces biorégions, c'est une structure qui est beaucoup plus à taille humaine, c'est-à-dire beaucoup moins étendue territorialement. Et ensuite, il y a une réflexion qui est faite. Évidemment, il faut que ce soit la réflexion faite par les citoyens, pas seulement par les élus, et qui permet de mettre en évidence ce qu'on a besoin pour telle ou telle production, par exemple la production électrique. Et à ce moment-là, à partir du moment où on sait qu'on a besoin d'autant d'électricité pour faire marcher le territoire, à ce moment-là, on peut mettre en place un certain nombre de techniques, que ce soit les éoliennes territoriales, les panneaux solaires, et évidemment certainement pas le nucléaire.
Peut-être une dernière question, Pierre Rose. Il y a pas mal d'observateurs qui parlent d'une nouvelle ère du capitalisme, hein, l'ère du capitalisme numérique. Autre caractéristique de cette ère, c'est que finalement la pyramide de redistribution, elle est de plus en plus étroite à son sommet. Un plus petit nombre de personnes récoltent finalement les fruits du travail de tout le monde. C'est ben, un peu aussi ce qu'on peut voir dans tout ce qui est plateforme numérique, que ce soit de distribution de musique ou de repas.
Absolument, c'est-à-dire, c'est ça tout le problème, c'est ça tout l'enjeu. C'est pour ça que on essaye de se battre sur l'histoire de qui paraît anodin, qui s'appelle la surexposition des écrans. C'est que, en fait, quand on voit un petit peu l'évolution du système éducatif, c'est une catastrophe caractérisée. C'est-à-dire qu'on a actuellement, à cause de justement toute cette attraction est faite en direction des jeunes. Ils sont tellement, on s'en rend compte avec ce qu'on fait sur place, hein, ils sont tellement pris par ça que ça les empêche de dormir. Ils prennent sur le sommeil. Alors évidemment, ils récupèrent en allant à l'école, pratiquement en étant somnambules. Et ce qui est plus grave, c'est qu'ils perdent la notion de la réflexion surtout. Et donc, alors moi je pense que c'est assez voulu, c'est-à-dire que on a besoin de quelques, enfin, un pourcentage, j'évaluerais peut-être à 20% de personnes qui soient suffisamment instruites pour faire marcher le système. Puis le reste, ben, c'est une tout venant. Et après, on s'étonnera de la violence qui peut exister, de la drogue qui se développe largement, etc. Et tout ça parce que ben, l'humain est de plus en plus méprisé, l'humain est de plus en plus mis de côté, c'est ça le problème. Voilà un peu les réflexions qu'on peut avoir à ce moment, qui sont encore en situation d'élaboration, hein. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas une analyse finie, on essaye d'avancer avec des bases, et disons que c'est entendu. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour s'opposer à ce grand système. C'est ça, les difficultés qu'on a actuellement. En tout cas, eh bien là, le fait que ce soit une radio qui fasse ça pour la troisième fois dans ces journées sans écran, de même qu'au niveau des écoles, ils font actuellement du 13 au 22 mai, ils font des 10 jours sans écran, pardon. Je trouve ça remarquable et j'espère que beaucoup d'associations en profiteront pour faire parler de ce qu'ils font et pour voir un petit peu ce qu'on peut faire de façon la plus collective possible. C'est-à-dire sortir de l'individualisme qui est actuellement le lot de notre vie, malheureusement, parce que le système a réussi à nous casser continuellement. Mais en tout cas, bravo à PFM.